RMC, Brigitte Lahaie, Lahaie, l'amour et vous.
Vincent Cespedes est mon invité. J'aime donc je suis. C'est une affirmation, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est le titre de votre cahier chez Larousse. Et vraiment, je vous conseille de l'emporter en vacances. Ça vous permettra d'aimer mieux, surtout, et peut-être de ne pas tout attendre non plus de l'amour, parce que c'est ça aussi le problème souvent. Hein.
Oui, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, on confond l'amour et le désir d'amour. C'est pas du tout la même chose. Je dirais même c'est contradictoire. C'est par exemple la femme qui dit « Oh, je l'aime tant, j'ai tant de choses à lui donner, mais il ne m'ouvre pas ses bras et c'est dommage et quel gâchis. » Ça, c'est pas de l'amour, c'est du désir d'amour. J'aimerais tant qu'il m'aime, mais il ne m'aime pas. Et donc, si un des deux n'aime pas, il n'y a pas l'amour. L'amour est un événement, c'est quelque chose au milieu du toi et du moi. C'est quelque chose qui fleurit, c'est la relation elle-même. Et une relation d'amour, pour advenir, pour avoir lieu, il faut que les deux puissent s'abandonner. C'est pour ça que la première question de ce qu'est philosophique, c'est l'amour réciproque, mission impossible, point d'interrogation. Et je montre qu'en fait, l'amour est toujours réciproque, ou sinon, c'est qu'il n'est pas. C'est du désir d'aimer.
Alors, je précise également que le lundi 29 juin, vers 20h, vous serez au Café de l'Amour. Hein, le Café de l'Amour, on en parle régulièrement. Beaucoup de nos invités y vont. Et oui. Donc, vous y serez le 29 juin pour des exercices, donc grandeur nature.
Hein, oui, bien sûr. Exercice philosophique.
Mettrez en pratique, en chair et en os, si je puis dire, l'amour. Fabrice, vous êtes avec nous. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
Alors, c'est intéressant votre témoignage, me semble-t-il, puisque parfois vous avez l'impression que vous n'aimez plus.
Oui, c'est un peu particulier en fait. Je suis avec quelqu'un depuis. Ce n'est pas très longtemps, ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Mm-hmm. Et ça m'est arrivé à quelques reprises de ressentir un vide, en fait, une espèce de vide affectif où j'étais incapable de lui dire je t'aime. Enfin, je ne dis pas je t'aime tout le temps. Mais y a des fois je le ressens et je le dis et pour moi c'est comme un cadeau et là plus rien. Et c'est là où c'est d'autant plus déstabilisant, c'est que ça m'est déjà arrivé dans ma vie affective passée que au départ la première fois que ça m'est arrivé je ne l'ai pas dit à la personne, j'en ai souffert pendant toute notre relation et puis après dans d'autres relations je l'ai dit. On peut le dire 1-2 fois, et puis la troisième fois, ça passe plus, parce que la personne qu'on a en face, elle a peur. Elle ne sait pas si son petit ami est sûr de ses sentiments. Donc c'est une situation très difficile à vivre, en fait.
Si je comprends bien, c'est donc le fait de dire ces 3 petits mots, je t'aime, qui bloque.
C'est même pas tant ça, c'est juste c'est un ressenti qui manque, en fait. C'est une espèce de vide. Et dans ces cas-là, je peux imaginer que la rupture est proche. Enfin, je me dis, j'ai l'impression, je n'aime plus. Je n'ai plus envie d'être avec elle. Enfin, c'est une impression, en fait. Mmh. Parce que dans certains cas, ce vide était tellement fort, c'était tellement une souffrance que je disais, il y a quelque chose qui ne va pas, je te quitte. Et puis...
Mais je crois que là, on est vraiment dans quelque chose qui est par rapport à vous-même et non pas par rapport à l'autre. Hein.
Complètement.
Ce vide que vous ressentez, c'est quelque part une angoisse terrible hein, qui vient de votre psychisme. Et je crois que vous seriez face à n'importe quelle femme, vous auriez à un moment ou un autre ce ressenti.
Ah oui, je suis complètement d'accord avec tout. Vous, c'est quelque chose qui... C'est pas l'autre, c'est moi.
Il y a certainement... Est-ce que vous aimez ?
Je ne suis pas mon premier fan.
Je suis surprise de votre réponse, Fabrice.
Avec le temps, j'ai réussi à être un peu plus lucide sur moi-même et à ne pas voir que les choses négatives. Je fais un travail sur moi-même pour essayer de voir ces choses-là, mais après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est encore plus, d'autant plus compliqué que si on a cette espèce de vide, que ce vide entraîne à la rupture, c'est difficile de s'aimer après par derrière.
Moi, Fabrice, bonjour. Je suis sensible à ce que vous dites. Je suis d'accord avec Brigitte sur l'idée que ça vous concerne. Donc, il y a deux attitudes que vous pourrez adopter. La première, c'est une sorte d'autodérision par rapport à vous-même, d'humour. Cultivez une sorte de décollage. Hein, vous décollez par rapport à vos angoisses, à vos peurs. Vous essayez. Tout ça, c'est pas bien grave. Vous allez vous en sortir. J'ai l'impression que vous êtes jeune. Vous avez quel âge ?
30 ans,
c'est jeune, vous êtes en construction encore, rien n'est joué et tout est devant. Donc prenez un peu, ne vous prenez pas trop au sérieux, essayez de relativiser les choses, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la leçon de Heidegger, Martin Heidegger, qui est un philosophe allemand, et qui lui distinguait la peur et l'angoisse. Et il disait, la différence entre la peur et l'angoisse, c'est que dans l'angoisse, on ne sait pas ce qui nous fait peur. Dans l'angoisse, il y a une sorte de sentiment diffus qui nous paralyse, qui nous tétanise. Ça semble être votre vide affectif. Alors que dans la peur, on a peur de quelque chose de précis. J'ai peur des araignées, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'un truc précis. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de transformer votre angoisse diffuse, inconnue, peur qui n'a pas de visage, en peur réelle. Essayez de comprendre précisément ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est s'engager avec quelqu'un ? Est-ce que c'est faire famille avec quelqu'un ? Et quelque part, être 2 ans avec quelqu'un, il y a peut-être cet horizon-là qui se dessine et qui vous terrifie. Et donnez un visage à votre angoisse, transformez-la en peur, et après, une fois que l'angoisse est transformée en peur, on peut faire acte de courage. Le problème avec l'angoisse, c'est qu'on ne peut pas être courageux face à l'angoisse parce qu'on ne sait pas de quoi on a peur.
Oui, c'est clair.
Donc, courage.
Merci bien.
Oui, et puis je rajouterais, Fabrice, vous savez, quand on ne s'aime pas trop, et quand on a comme ça parfois ce sentiment de vide. Et quand on parle d'amour, c'est forcément parce que le socle d'amour sur lequel on aurait dû se construire est parfois défaillant. Donc, si vous voulez, ce qui doit se passer, imaginez que vous êtes sur un plancher et puis de temps en temps, bah, il y a une lame qui est mouvante. Et là, à ce moment-là, vous ressentez que vous n'êtes pas les pieds sur terre et que vous pouvez tomber. Et ben, c'est un peu ce que vous ressentez par rapport à ce sentiment de vide, voyez ? Donc, quand c'est comme ça, eh ben, raccrochez-vous à quelque chose de concret pour laisser passer ce sentiment de vide.
Oui, des fois, bah, j'y arrive, hein, parce que j'ai une passion pour le cinéma et c'est ce à quoi je me raccroche. Mais voilà.
L'art, c'est une bonne thérapie. Oui,
oui, c'est complètement. Ouais. Enfin, je sais que quand j'écris, c'est inconsciemment et je livre des choses qui me terrifient ou qui font partie de moi-même. Mais après, oui, c'est pour le coup, la différence entre la peur et l'angoisse, c'est vachement...
Ça vous a parlé, ça ?
Complètement, oui, parce que... voilà.
Eh bien, tant mieux. Comme ça, vous savez sur quoi avancer. Merci, Fabrice.
Merci.
Au revoir. Kevin est avec nous maintenant. Bonjour, Kevin.
Bonjour,
vous avez 28 ans.
C'est ça.
Et vous êtes attiré par les filles beaucoup plus jeunes que vous ?
C'est ça, exactement. Voilà, en fait, non, j'ai pas 28 ans, j'ai 23 ans exactement.
23 ? Ah, bah c'est
23
pas...
ans. Bon. Ouais, non, encore plus jeune.
Bah alors, être attiré par des filles de 17 ans, ça va, il n'y a pas de quoi s'alarmer.
Il
hein.
n'y a pas de quoi s'alarmer, non, je sais pas. Je me trouve un petit peu inquiet, je trouvais ça peut-être un peu bizarre. Surtout, des fois, j'ai eu des réflexions des amis à moi qui trouvaient que. C'était des filles un petit peu trop jeunes ou quoi, donc je sais pas, j'ai essayé de leur expliquer que je trouvais quand même les filles d'aujourd'hui à 17 ans étaient quand même assez sympathiques, assez jolies. Contrairement à certaines filles qui sont un peu plus âgées, donc je sais pas, et c'est vrai que dans mon métier, j'ai l'occasion de voir certaines filles, et c'est vrai qu'elles sont, des fois, elles sont jeunes, donc elles ont 16-17 ans, et je sais pas, je me posais la question, est-ce que c'était normal à mon âge, à 23 ans, de... On va dire, je vais pas dire fantasmer parce que c'est un grand mot, mais on va dire, j'ai l'impression de ressentir des filles, des quelque chose pour des filles de 16-17 ans. Ouais.
J'ai envie de vous poser une question très franche. Est-ce que vous descendez en toutes ces ans dans votre désir ?
Pardon ? Non.
D'accord. D'accord.
Non, parce qu'en fait, il y a un moment de ça, j'étais avec une fille, donc on va dire plutôt une femme de 32 ans.
Oui.
On va dire, je suis resté 5 ans avec elle. Et après, donc, on s'est séparés parce qu'elle voulait s'engager un peu plus avec une relation, on va dire, avec un bébé, un mariage. Donc, c'était pas, on va dire que c'était pas mon but, donc j'ai préféré mettre fin exactement à la relation. Là, j'ai trouvé une fille, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, donc de mon âge, elle a 22 ans, on s'entend très très bien, donc tout va très bien. Mmh. Elle est physiquement, en plus pour moi, je la trouve parfaite, mais c'est vrai que des fois, ben, je vois des filles, elles ont 16-17 ans, elles sont habillées comme pour des filles de 23 ans. On va dire que même des fois, on a un petit peu de mal à reconnaître, à savoir si elles ont 17 ans ou plus 23 ans. Je sais pas, des fois c'est un peu ambigu, donc je me pose la question, est-ce que c'était normal? Mais c'est vrai que je veux pas dire que je suis avec des filles de 10 ans, 12 ans, je préfère mettre les choses...
Vous avez les pieds sur terre, quoi, vous avez les pieds sur terre. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous excite là-dedans? Est-ce que c'est un peu l'idée d'un interdit, quelque part? Ou est-ce que c'est au contraire vraiment un critère objectif? Mais j'ai du mal à croire que ce soit un critère objectif, puisque vous venez de dire, elles ont 17 ans, mais on pourrait les prendre pour des filles de 22 ans. Donc, forcément.
Ouais, mais je sais pas, le physique, prouve, oui. C'est plutôt, on va dire, c'est plutôt physiquement, hein, qu'à matière. Oui. On va dire, je sais pas si c'est là, je vais parler un peu comme pas un ancien, mais dire la jeunesse du corps ou un truc.
Mais est-ce que c'est leur innocence qui vous attire,
non,
par exemple?
Non, du tout. C'est vraiment, c'est physiquement, parce que je trouve que dans des filles, il y a des filles de 16-17 ans, elles sont physiquement, je les trouve quand même très très bien. Elles ont une belle poitrine, de belles formes, elles savent s'habiller assez sexy, voire un peu trop provoque.
En plus, vous dites, je suis attirée par les filles de 16-17 ans, mais au fond, vous avez une relation avec une femme de votre âge.
Oui, non, on va dire attirer, c'est vrai que c'est peut-être un grand mot, mais on va dire quand je vois quelqu'un, on va dire que je vois une fille, admettons, au bord de la piscine ou quoi, ça, je
ne sais pas, c'est toujours... D'accord, mais Kevin, qu'on soit bien clair, en fait, vous fantasmez sur ces jeunes filles, mais vous ne passez pas à l'acte.
Non, du tout, non, mais après, on va dire fantasme, ça fait quand même un peu... pervers, hein.
Donc mais non, mais c'est justement, ça m'intéresse bien parce que vous avez prononcé le mot. Vous pensez que votre fantasme est quelque chose d'interdit, de pervers.
Ouais,
mais c'est ça votre problème,
pense, hein.
Kevin, c'est votre problème. Il est là, c'est par rapport à vous-même. Parce qu'après tout, regardez des jeunes filles de 17 ans qui sont habillées sexy, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent et qui peuvent être excités. Mais vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est pas sain, et c'est ça, c'est ça votre difficulté.
Je trouve que c'est pas, peut-être c'est pas correct, je sais pas, mais bon, je prends un exemple tout à l'heure, je suis descendu au niveau d'une piscine pour faire un entretien dans mon métier, j'avais 3 filles ou 4 filles de 16 ans, 15-16 ans avec leur mère, la poitrine à l'air en train de bronzer, donc je sais pas, des fois je me dis bon, je sais pas.
Mais vous savez, ces jeunes filles, elles ont besoin de faire leur preuve sur le plan de la séduction.
D'accord. Ouais.
Mais en même temps, elles sont pas prêtes, elles sont pas vraiment encore femmes et elles sont pas vraiment prêtes sexuellement.
C'est ce que je me dis, voilà, c'est plutôt une facette qui est
mais évidemment,
mais après, je pense derrière, il y a strictement rien.
Et donc évidemment, alors rassurez-vous et regardez ça avec beaucoup d'humour. Ça va désamorcer votre angoisse, encore une fois.
Parce que des fois, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pervers et c'est vraiment pas du tout mon style. Je sais pas, je me dis, mais oh, t'es un pervers, tu regardes des filles, elles ont 16 ans.
C'est pour ça que je vous dis, encore une fois,
un décalage de,
Kevin, pour désamorcer ça, c'est encore une fois avec l'humour que ça va...
Ouais.
Amusez-vous de ces jeunes filles qui essayent de vous aguicher, qui essayent d'aguicher tous les hommes, d'ailleurs. Hein,
ouais, parce... c'est ça. C'est qu'il y en a, j'ai l'impression que même elles sont plus aguicheuses que des filles de mon âge, vont être là, faire des sourires.
Mais attendez, elles sont en train de construire leur féminité et elles la construisent à travers le regard des hommes qui daignent bien.
Mettez-vous à la place d'une fille de 16 ans. Hein. Mettez-vous à la place d'une fille de 16 ans qui découvre son corps se transformer en corps de femme et qui a peur de ne pas séduire, qui a peur d'être recalée sur le grand marché de la séduction, qui a peur de l'amour, qui a peur de toute cette merveilleuse chose à découvrir. Et donc dans cette peur-là, une des tentatives courageuses, c'est d'afficher farouchement sa sensualité naissante. Voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose, sachez bien qu'évidemment dans votre désir, il y a aussi, je peux pas croire que ça soit purement physique, parce qu'il y a des filles de 25 ans qui sont aussi, qui font très très jeunes. Donc je pense que c'est aussi l'idée qu'elles ne vous mettent pas en danger. Une fille de 15, 16 ans, 17 ans ne met pas du tout en danger un homme comme une femme de 22 ans qui sait affirmer qu'elle a eu des expériences précédentes et qui sait dire non, qui sait voilà. Donc réfléchissez aussi à votre volonté de contrôler l'autre dans la relation. relation, votre volonté de contrôler la relation. C'est plus facile à 16 ans, c'est plus difficile quand on peut vous tenir tête avec des filles de 22 ans.
Merci Kevin, en tout cas, de votre appel. Et ça y est, nous allons sur la plage avec RMC, le club Marmara. Nous en avons trois. Alors, j'espère que parmi ces trois-là, le bon transat va tomber, si je puis dire. Alors, on va commencer avec José qui a choisi un transat. Bonjour José.
Bonjour Brigitte.
Quel numéro avez-vous choisi ?
Le 4.
Le 4. Eh bien, vous retrouvez Jean Rességuier. Donc, voilà, José, on vous laisse évidemment repartir avec un bras de plage RMC. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci Brigitte.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, il reste deux chances. Eric, bonjour.
Bonjour Brigitte. Et puis, c'est super ce que vous faites. Hein.
Merci, c'est gentil. Alors, quel numéro avez-vous choisi ?
Alors, eh bien, le 3.
Le 3. Eh bien, Christophe Cessieux est déjà assis sur ce transat. Donc, Eric, vous repartez avec un drap de plage RMC et continuez à tenter votre chance, bien sûr. Merci,
merci,
Eric.
Au revoir.
Au revoir. Et puis, Guillaume est avec nous. Guillaume, bonjour.
Bonjour, Brigitte.
Alors.
Alors, ça sera le numéro 17.
Hein. 17. Eh bien, Guillaume, j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer, Guillaume. Vous allez pouvoir vous asseoir sur ce transat numéro 17.
C'est super.
C'est formidable, hein ?
Ah, c'est formidable.
Bon, eh bien voilà, vous avez gagné ce voyage pour deux personnes. Vous allez pouvoir partir donc en Égypte, au Maroc, en Tunisie ou en Espagne. Vous ferez votre choix.
Oui.
Et avec la personne également de votre choix. Et évidemment, tout est payé. Cette nuit en chambre double, le transport, les vols, enfin bref, c'est des vacances de rêve.
Je vous remercie Brigitte et je remercie RMC, c'est génial.
Ben moi je suis ravie de qu'il y ait eu un gagnant dans l'AE, l'amour et vous. Voilà, l'amour
merci.
Ça porte chance, c'est bien connu.
Oui, tout à fait.
Et bien sûr, ça continue, vous pourrez retenter votre chance. Alors ce sera une nouvelle plage avec 20 transats hein, dans l'émission de Luis Fernandez. Donc 32-16 touche 6 pour vous inscrire. Et ça va vite finalement de gagner, hein, parce que 20 transats avec 3 tirés au sort à chaque émission, il y a encore un voyage à gagner très vite. Merci Guillaume. On continue avec notre sexy news du jour. Philippe Sansot est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors c'est un ouvrage assez curieux, ça s'appelle Cap 40 et c'est un jeu de mots avec le Cap d'Agde et le CAC 40.
Tout à fait.
C'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Obsession Collective. Mmh. Et
je suis l'auteur effectivement aussi.
Voilà, et c'est plutôt osé comme ouvrage, on ne sait pas trop où vous nous emmenez je trouve.
Et oui, voilà, c'est osé parce que je suis pas dans le conforme, dans la forme attendue ou traditionnelle. Parce qu'effectivement, on connaît moult livres qui traitent d'une obsession. Là, mon défi, c'était de traiter deux obsessions. Que se passe-t-il lorsqu'on est porteur soi-même de deux obsessions, dont l'obsession là des jeux de bourse sur le Cap 40, sur le CAC 40, et puis des jeux de sexe, effectivement, au Cap d'Agde de naturiste. Et c'était voir qu'est-ce qui pouvait arriver lorsque il y avait une fusion comme ça de ces deux mondes qui en fait on les croit éloignés mais en fait sont très proches parce que ils sont régis par des règles communes. D'abord ce sont des jeux et puis ils sont collectifs effectivement, ils sont spéculatifs ou aléatoires et puis même on peut dire qu'ils sont déviants et c'est peut-être ce dernier trait de caractère qui les caractérise le plus et qui est le plus plaisant.
Oui, en effet, c'est peut-être ce qui ressort le plus dans votre ouvrage. En tout cas, on passe sans cesse donc d'une bourse à une autre, si je puis dire.
Oui.
Oui, vous voulez réagir, Vincent Cespedes? Vous l'avez pas lu, hein, l'ouvrage,
bien sûr. Je l'ai pas lu, mais ça me fait sourire et je vais le lire. Non, c'est très intéressant. D'ailleurs, on trouve aussi dans la frénésie. Il y a quelque chose de la frénésie quand on boursicote. Il y a quelque chose, j'imagine, de frénétique.
Oui.
J'ai des amis boursicoteurs. C'est vraiment, ça les prend complètement. Le matin, le midi, le soir, ils sont tout le temps dedans. Et dans la frénésie sexuelle et partouzarde au bon sens du terme, il y a aussi cette idée d'une frénésie, d'une effervescence et quelque chose qui tient en haleine. C'est un peu vivre sur la brèche. Dans les deux côtés.
Oui, mais c'est même aller au-delà, c'est-à-dire qu'on passe du plaisir individuel à la jouissance collective, ou de la frénésie individuelle à la frénésie collective. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul, on advient au monde parmi les autres et parmi les siens dans ces deux mondes, qui sont très fraternelles. Quoi. D'ailleurs, on parle souvent de la fraternité des corps hein, à propos du au Cap d'Agde.
Et la fraternité des cours, vous y croyez? Des cours de bourse?
Oui, oui, tout à fait, parce que sur tous les forums, on s'entraide, on se donne des informations vraies ou fausses. Ah oui, oui, c'est vraiment très, très collégial et fraternel. Oui, oui.
Mais il y a beaucoup d'humour hein, aussi dans cet ouvrage, évidemment.
Ah oui, c'est un livre parfois tragique, mais qui fait beaucoup rire, normalement, oui. Enfin, j'ai essayé. Oui.
Alors, je donne un conseil comme ça, juste un conseil, mais il y en a plein d'autres dans cet ouvrage. Hein. Sur une plage, il faut toujours savoir que les filles tournent avec le soleil, donc ne jamais s'installer à leur gauche en regardant la mer, voilà.
Et oui, sinon on a contre-jour. Oui.
Et voilà, exactement. Enfin bref, ça s'appelle Cap 40, voilà. C'est original, c'est intéressant, et c'est aux éditions Obsession Collective.
Voilà, il faut se rendre sur le site cap40.org qui est dédié au livre pour commander sous le manteau voilà, des livres à offrir.
Voilà, et on inscrira tout ça sur notre blog, bien sûr. Merci Philippe
oui,
Sanso.
Merci.
Merci
au
à
revoir.
Vous. Au revoir. On se retrouve dans un instant avec ce mot de l'alphabet amoureux que vous avez inventé, encouplement, voilà. Et puis 32-16, bien sûr, continue à nous parler d'amour.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps.
Alors Vincent Cespedes, vous avez choisi ce terme encouplement. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé encouplement, donc je suppose que vous l'avez inventé, évidemment.
Oui, c'est un néologisme qui est très utile, hein, c'est pas du tout gratuit. Je l'ai inventé en 2003 dans un livre « Je t'aime », ça s'appelait. Et en fait, c'est très utile parce que ça montre... D'abord, le mot n'est pas beau. Hein, encouplement, ça fait un moitié accouplement, on sent qu'il y a du couple dedans. Ça permet des déclinaisons, on peut dire les encouplés, ceux qui s'encouplent, le verbe s'encoupler. Donc voilà, c'est un vrai mot prêt à l'emploi et qui dit une chose très simple, qui dit l'encouplement, c'est l'amour en couple obligatoirement. C'est-à-dire, c'est cette pression sociale par les films, par les people, par l'éducation amoureuse qui consiste à dire, si tu aimes, tu dois en aimer qu'un et former un couple officiel avec cette personne. L'encouplement, c'est l'objectivation de l'amour et la mise sous contrat de l'amour. Or, je plaide d'ailleurs dans le « J'aime donc je suis », je plaide pour un amour constat, un amour que l'on constate. Tiens, je suis amoureux. Tiens, l'amour me foudroie. Tiens, j'ai envie de te revoir. Tiens, j'ai envie de créer des choses avec toi. Mais pas un amour contrat, c'est-à-dire tu dois. C'est-à-dire, il faut que tu sois ma petite copine, mon petit copain, et tout ça doit être officialisé. Et donc, l'encouplement, c'est ce véritable diktat qui touche notamment les jeunes, que l'on veuille s'encoupler quand on a vécu à 30 ans, 35 ans. Mais des petits jeunes qui s'encouplent à 18 ans, 19 ans, en y croyant dur comme fer, et en faisant là, en mettant l'amour comme ça, leurs sentiments bouillonnants, paradoxaux, etc., sous contrat, j'y vois vraiment une sorte de conditionnement social. Donc, les encoupler, l'encouplement, c'est ça. C'est cette idée que l'amour à deux est obligatoire et que l'amour ne peut pas être libre. Finalement, l'encouplement s'oppose à l'amour libre.
Voilà, bah écoutez, c'est un terme qui a du sens quelque part et peut-être qu'aujourd'hui, où en effet, on voit bien les couples ne savent plus très bien comment se positionner, bah peut-être qu'il faut redonner une vraie définition, des vrais repères aux couples. C'est encore une autre histoire.
Mais précisons juste une chose, l'encouplement ne désigne pas deux personnes qui s'aiment tendrement sans contrat. Ça existe aussi. Donc c'est pas du tout un mot qui est là pour condamner les amours à deux. C'est un amour qui est là pour condamner l'amour obligatoire, l'amour devoir.
Merci en tout cas de nous inventer des mots, Vincent Cespedes. N'hésitez pas, hein, si vous avez un autre, on continue.
RMC, Brigitte Lahaie, Love, Conseil.
Alors, je vais vous parler de quelques mythes qu'il faut vraiment faire tomber si on veut pouvoir aimer vraiment librement, enfin en tout cas être heureux en amour. Alors, première idée qui est vraiment fausse, dans un couple, on doit voir les choses de la même manière. Alors ça, c'est vraiment stupide parce que c'est justement nos différences qui nous permettent de nous apporter l'un l'autre et qui permettent de faire évoluer le couple et vouloir que l'autre pense comme nous. Ça prouve qu'on n'est peut-être pas si sûr de nous, hein, en quelque sorte.
Ah oui, tout à fait.
Vous êtes d'accord. Alors, deuxième mythe à faire tomber, dans un couple, il faut rester romantique. Bon, certes, un peu de romantisme, c'est toujours bien agréable, mais trop de romantisme, finalement, ça fait que les femmes vont rêver au prince charmant, les hommes vont imaginer que, une fois qu'ils ont leur douce chez eux, ils n'ont plus rien à faire. Non, je crois qu'il faut faire attention. Le romantisme, c'est beaucoup d'idéal et c'est pas pas forcément toujours bon.
Et n'oublions pas que le romantisme se conjugue aussi avec la mort.
Oui, ça c'est encore une belle idée philosophique.
C'est le vrai, il vient de là, hein, il vient de là, l'amour et la mort mélangés, la tragédie.
Oui, un vrai couple, ça ne se dispute pas. Alors ça c'est pareil, c'est un mythe qu'il faut faire tomber parce que une dispute de temps en temps c'est vraiment pas grave. Je dirais même que c'est mieux parce qu'une dispute, bah, ça permet de mettre les choses à plat, à condition bien sûr qu'on sache mettre fin à une dispute, hein, parce que une dispute, si ça laisse des rancœurs, c'est pas bon. Mais une dispute c'est toujours mieux que des non-dits, voilà, ou des frustrations continuelles.
Sans problème, rien à dire.
Voilà, alors un couple, autre idée reçue qu'il faut faire tomber, un couple se construit à partir de la passion. Alors ça, c'est pas vrai non plus. Il y a des couples, en effet, qui se sont rencontrés, qui ont été passionnés, qui sont après construits et sont devenus des vrais couples. Mais il y a des couples qui se sont construits tout doucement et qui sont aujourd'hui très solides. Donc il n'y a pas de règle. Il ne faut pas croire qu'il faut s'aimer follement pour former un couple.
C'est une création collective, enfin, à deux en tout cas, un couple. Donc ça ne se programme pas.
Et alors, dernière idée reçue qu'il faut absolument, alors celle-là plus que tout, faire tomber. Dans un couple, on doit tout se dire. Alors, je crois que justement, s'il y a quelqu'un à qui on ne doit pas tout dire, c'est bien la personne avec qui on vit, c'est pas notre psy. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments avec notre partenaire qu'on peut pas tout lui dire. Aller lui raconter que notre collègue cet après-midi nous a fait du gringue, c'est le faire souffrir pour rien. Ou alors, c'est parce qu'on est peut-être un peu sadique. En tout cas, on ne doit pas tout se dire dans un couple.
Oui, l'autre, celui qu'on aime, ne doit pas être un confident total. Et à mon avis, il faut préserver la part de mystère. De toute façon, on ne peut pas tout dire car on ne sait pas tout soi-même.
Exactement. Bon, Marine est avec nous maintenant. Bonjour Marine.
Bonjour.
Bonjour, vous avez Bonjour. 30 ans.
Oui.
Et alors, c'est chaque fois que vous tombez amoureuse, vous pétez un peu les plombs.
Voilà, oui. Je me suis séparée en 2003, la rupture a été très dure.
Mm-hmm.
Et depuis 2003, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me plaît ou dont je tombe amoureuse, je pète les plombs et je finis en HP carrément.
Ah oui, d'accord. Donc vous avez vraiment une perte d'identité quand vous tombez amoureuse.
Exactement. Je ne me contrôle plus du tout et je ne pense plus qu'à ça. J'essaye de me contrôler au maximum et je n'arrive plus du tout à me contrôler. Quoi.
Et vous tombez beaucoup amoureuse depuis 2003 ?
Ça m'arrive une fois par an, en fait. Au moins.
Au moins.
Enfin, ça m'arrive une fois par an où je tombe amoureuse et je finis en HP.
Et au bout de combien de temps vous avez cette décompensation ?
Au bout de combien de temps ?
Oui, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureuse et au bout de combien de semaines ou de jours vous avez des soucis ?
Ça dépend. La première fois, ça a duré pendant un an où j'ai tergiversé pendant un an. Et depuis, ça m'arrive là dernièrement, ça m'est arrivé. Je suis partie en voyage en Afrique et ça a arrivé presque aussitôt en fait.
Donc ça se rapproche, hein. C'est bien ce qui me semblait. C'est plus le temps passe, moins vous arrivez à garder votre état quand vous êtes amoureuse.
Exactement.
Vous avez un traitement, j'imagine. Le psychiatre a dû vous donner un traitement, non ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et vous lui en avez parlé ? Parce que là, on est vraiment dans des questions d'humeur. Hein. Je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux.
Des questions d'humeur, oui, ben c'est ça. Donc j'ai un traitement pour stabiliser mon humeur.
C'est ça, oui. Vous êtes peut-être un peu bipolaire, d'après... Non ? Qu'est-ce que vous a dit le psychiatre ?
Ben non, justement, ils disent que non. Ils disent que c'est que... Alors, d'après eux, je me suis trop défoncée, on va dire, étant jeune. Et donc, j'ai mon hippocampe qui serait atteinte. Mais je comprends pas que je réagisse comme ça à chaque fois. C'est toujours dans la même situation.
Mais quand vous avez eu cette rupture en 2003, c'était une relation qui durait depuis longtemps ?
Depuis 4 ans.
Oui.
Je vivais en couple.
D'accord. Mais on peut imaginer qu'il y a eu un réel traumatisme qui a dû réactiver certainement un sentiment d'abandon de votre enfance. Je suppose qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, non ?
Alors, suite à ma séparation, mes parents m'ont abandonnée aussi.
Donc vous vous êtes retrouvée complètement seule.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Tout à fait.
Moi, je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce que vous êtes d'origine africaine ?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'ai beaucoup beaucoup l'Afrique.
Vous aimez beaucoup l'Afrique. Non, parce qu'il y a effectivement cette médecine occidentale qui, bon, avec des médicaments, des hôpitaux psychiatriques, heureusement que c'est là, c'est un garde-fou. Mais il y a aussi d'autres approches. J'ai l'impression que c'est un peu lié aux racines pour vous. Puisque c'est un trouble d'identité, ça remue votre identité. Donc, qu'est-ce qui vous construit? C'est ça la question, en tout cas en tant que philosophe et non pas en tant que psychiatre, j'ai envie de vous poser. Finalement, vos parents vous abandonnent quand votre amour finit. Il y a quelque chose de traumatisant là. Qu'est-ce que ça veut dire, vos parents vous abandonnent? J'arrive pas à comprendre, vous étiez grande déjà. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'ai appelé à l'aide parce que ça s'est fini en violence, j'ai fini à la rue, je suis partie du jour au lendemain devant mon et quand j'ai demandé de l'aide auprès de mes parents, ils m'ont fermé la porte au nez en ne croyant pas ce que je leur ai raconté et étant très proche de mon ami, quoi. Et ils ne voulaient pas croire ce qui se passait entre nous.
Donc c'est une sorte de... C'est une sorte de trahison entre guillemets de vos parents aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coup d'état qui a été fait. C'est-à-dire tout d'un coup, votre ami est du côté de vos parents et vos parents vous répudient en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Ouais.
Là, il y a vraiment une vraie douleur, mais qui dépasse complètement le cadre amoureux. C'est une douleur qui entre de plein pied dans votre histoire personnelle avec vos parents. Il y a quelque chose à creuser là. Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous vous exprimez avec un support artistique, l'écriture, la musique, quelque chose comme ça?
Alors, je m'exprimais au début quand j'allais vraiment pas bien dans la musique.
Oui.
J'ai abandonné tout ça et je suis devenue bergère, ne croyant plus au monde humain, on va dire, plus ou moins. Je suis partie m'éloigner en montagne, où je suis actuellement.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ça vous rend plus forte, ce rapport à la nature, ou pas?
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Je vais mieux par rapport à... Depuis que je suis en montagne, je vais de mieux en mieux.
Bon.
Mais donc, ma relation avec les hommes est toujours chaotique.
Et compliquée, oui. Et surtout, ce qui est ennuyeux, c'est que ça vous déstabilise à chaque fois. Mais là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre du traumatisme. Moi, je vous conseille de continuer à essayer de vous construire par rapport à vous. Et peut-être... Peut-être qu'il faut pendant quelques temps essayer d'éviter de rencontrer des hommes pour l'instant.
En tout cas, essayer d'éviter de se mettre en couple. Vous pouvez, à mon avis, rencontrer des hommes, mais vraiment n'y croyez pas. Vivez ça dans toute légèreté. Ne vous investissez pas dans un projet couple pour l'instant, car c'est ça qui vous met en fait dans le mur. Et travaillez aussi, à mon avis, sur votre relation avec vos parents. Qu'est-ce qui s'est joué et ça remonte à quand? Et voilà, il y a un travail introspectif à faire. Mais il faut prendre la chose avec légèreté. Ne misez plus sur quelqu'un pour l'instant, en attendant de vous reconstruire.
Je crois que c'est aussi un problème de confiance. Hein. Faites-vous confiance à vous et ne faites pour l'instant pas trop confiance aux autres. Je crois que vous avez aussi quelque chose à travailler par rapport à la confiance. Hein. Et c'est en ça que le fait d'être seul dans la nature, vous arrivez à vous ressourcer. Moi, je vous conseillerais presque des techniques comme le chamaning qui pourrait vous apporter beaucoup d'énergie. Vous savez, quand on est comme ça, un petit peu considéré par les psychiatres borderline, hein, en quelque sorte. Ben moi, je crois beaucoup à des choses, justement, le chamaning. Je l'imaginais que vous pensiez presque à l'envoûtement tout à l'heure,
complètement,
dans
les
questions. Hein, dans des choses qui sont, qui sont finalement des vraies énergies, même si sur le plan totalement médical, ça n'a pas beaucoup de sens, mais pourtant ça marche.
Il faut lire Toby Nathan, il faut lire Georges de Vereux, il faut lire des ethnopsychiatres comme ça qui montrent une autre approche de la folie, une autre approche du trouble identitaire. Et voilà, il faut aussi que vous entriez en enquête sur vous-même. On peut dire que c'est psychologique, mais en fait, moi, j'y vois vraiment de la philosophie.
Merci Marine, en tout cas, de votre appel. On se retrouve dans un instant avec la question croisée du jour. 32-16, bien sûr, continue à nous parler d'amour.
Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Eh bien voilà, c'est un Vincent qui nous envoie ce mail, Vincent Cespedes, et qui nous dit, voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue de philosophe. J'ai une partenaire depuis plusieurs années, je lui suis fidèle, mais voilà, j'échange depuis 6 mois maintenant par chat et caméra avec une femme qui me fait part de ses fantasmes. On se parle très souvent, ça me fait du bien, ça m'excite, ça me libère de mon quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une addiction? Est-ce que, en quoi ça pourrait être dangereux? Voilà. Donc là, on est aussi dans quelqu'un qui va bien dans son couple, hein, mais qui a son petit jardin secret.
Oui, moi, je crois beaucoup aux grandes vertus du jardin secret. Et puis, moi, je ne peux pas m'instaurer comme juge. Là, c'est vous qui vivez ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'énergie que l'on va puiser ailleurs peut aussi renforcer l'énergie d'une relation privilégiée. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'amour n'est pas un gâteau. C'est pas des tranches de gâteau que je partage et un peu pour Noémie, un peu pour Géraldine. L'amour, c'est au contraire contagieux, on le disait au début. C'est-à-dire ce que je peux vivre avec Noémie, quelque part, peut me donner de l'énergie que je peux aussi transmettre à Géraldine. Il faut penser l'amour comme un réseau d'énergie, un réseau vital d'énergie et non plus comme un gâteau à partager.
Voilà, et pour qu'on comprenne bien, que tout le monde comprenne bien, en effet, que l'amour, c'est pas tout pour la même personne. Quand une mère ou un père a plusieurs enfants, il aime autant tous ses enfants, même s'il en a 5 ou 10. Donc on voit bien que l'amour peut se multiplier. Alors après, Vincent, je crois qu'il faut simplement être clair avec vous-même. Pourquoi vous vous posez la question, est-ce que c'est dangereux? Je suppose que il y a quelque part une petite idée derrière la tête qui se dit, est-ce qu'un jour j'ai pas avoir envie de rencontrer cette femme et faire l'amour réellement avec elle, et à ce moment-là je trompe ma femme. Et donc là on voit bien qu'on est sur des questions par rapport à vous-même. Je crois que c'est la question toujours de la fidélité. Il faut être fidèle à votre éthique, à vous-même, et donc pour ça peut-être être plus clair par rapport à votre propre vision des choses.
RMC, Brigitte Lahaye. La haie, l'amour et vous.
Eh bien, la question croisée, Vincent Cespedes, votre ouvrage J'aime donc je suis aux éditions Larousse. Je rappelle, c'est un petit cahier qui permet à chacun de philosopher sur l'amour. Ça me permet de vous poser cette question. À choisir, est-ce que vous préférez aimer ou être aimé?
Pour moi, c'est pas une réponse de Normand. Je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire quand j'aime, c'est parce qu'on m'aime. Sinon, je n'aime pas. Il manque quelque chose. Et quand je suis aimé, mais vraiment que je laisse la possibilité que l'on m'aime, ça veut dire déjà que j'aime. Donc quelque part, les deux vont ensemble. Et je pense que séparer les deux, c'est ce qui mène à bien des fiascos désespérants aujourd'hui.
J'étais sûre que vous ne me répondriez pas. Voilà. Bon, j'ai tenté.
C'est une réponse. Non, c'est une autre philosophie.
À vous de me poser une question.
Moi, je vous pose une question. J'aimerais savoir, parce que vous avez toujours le mot pour réconforter les auditeurs, pour les orienter, les guider. J'aimerais savoir si vous avez eu dans votre vie quelqu'un, un philosophe, un intellectuel, qui vous a vraiment guidé vous. C'est-à-dire quand vous étiez désespéré ou dans le doute, est-ce qu'il y a une personne que vous avez rencontrée ou lue qui vous a vraiment fait un impact magistral?
J'ai mes cartes de tarot.
Très bien.
Voilà, c'est un peu ça mon guide. Mais j'ai beaucoup de maîtres en fait depuis très longtemps, et je me suis construite à travers beaucoup de personnes qui m'ont appris, qui m'ont guidée, qui m'ont aidée. Peut-être que la personne, c'est pas un philosophe, mais en quelque sorte on pourrait presque dire que c'est un philosophe qui m'a le plus apporté il y a très longtemps, il y a 30 ans, c'est Krishnamurti.
Ah oui, je connais très bien, mon père était féru, j'ai lu Krishnamurti à 16 ans dans la bibliothèque paternelle.
Voilà, moi j'ai dévoré Krishnamurti, ouais. pendant quelques années, lorsque j'avais en effet 20, enfin moi j'étais un peu plus âgée, j'avais 20 ans, et c'est vrai que ça a été un maître à penser extraordinaire. Voilà. Sylvain est avec nous. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Brigitte.
Marié et heureux.
Oui, tout à fait, marié et heureux. Heureux car j'ai connu le coup de foudre.
Oui.
J'ai connu le coup de foudre à deux reprises, curieusement.
Et vous êtes toujours debout.
Et je suis toujours debout, mais j'ai été quand même très très mal à un moment donné. À l'issue du premier coup de foudre qui a eu lieu il y aura 31 ans, dans un mois.
Ah oui, ça vous a marqué, hein, vous en souvenez.
Oui, j'ai été très très marqué par cette aventure d'adolescent finalement. Cette personne, en fait...
Vous aviez 26 ans,
Non, non, il y a 31 ans, j'avais 16 ans.
Ah pardon, oui, je me suis trompée d'une dizaine.
Voilà.
Alors, oh là là. Bah si, 10 ans, si, ça change tout. 16 ans, oui.
Ouais. Donc oui. J'avais 16 ans, donc c'était un amour d'adolescent en vacances, dans une station balnéaire de Bretagne. Bon. Et évidemment, la distance après les vacances fait qu'on n'a pas pu se vivre un amour, enfin vivre une relation plus longue. Mais l'intensité du coup de foudre que j'ai ressenti m'a cruellement blessé, en fait, intérieurement très, très fort. Et je ne l'ai jamais oublié. En moyenne, je pense à elle au moins une fois par mois depuis 30 ans. Mmh. ça m'a pas empêché de faire ma vie. Une première union qui s'est mal terminée, bon, avec quand même deux enfants. Puis un deuxième coup de foudre, il y a donc 20 ans maintenant, 19 ans maintenant. Mm-hmm. Un deuxième coup de foudre, mais ça a été exactement le même. La même sensation, les mêmes sensations de malaise et à la fois agréable, perturbant, troublant. Et là, par contre, il a fallu que je fasse la conquête de cette fille pour qui j'avais eu ce coup de foudre.
Avec qui vous êtes aujourd'hui.
Avec qui je suis toujours aujourd'hui et pour qui je ressens toujours le même amour. Aussi intensément qu'il y a 19 ans, quoi. Donc avec qui on a deux enfants, c'est vraiment deux enfants de l'amour. En parallèle, notre vie est, on va dire, équilibrée par le respect de la vie privée de chacun. C'est-à-dire qu'on est en couple, on est mariés maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'est mariés d'ailleurs, mais on se respecte et on respecte la vie privée. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que je fais des choses qu'elle ne sait pas, qu'elle ne veut pas savoir, mais qui sont avouables si besoin est. Si on a besoin de se parler de ça, on se le dira. Et c'est un peu pour revenir sur l'auditrice d'hier qui se plaignait d'avoir un mari qui avait reçu un texto d'une amie qui la recherchait depuis 10 ans. Et c'était pour lui dire que si son couple dure, doit durer, il faut laisser une part de liberté et de vie privée à son compagnon. Et ça va dans l'autre sens aussi à sa compagne. Et aujourd'hui, moi, je suis dans la démarche de reprendre contact avec ce premier coup de foudre, qui est difficile parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis 28 ans. La dernière fois que j'avais eu une nouvelle d'elle, c'était il y a 28 ans. Donc, c'est très difficile à renouer.
Oui, c'est pas simple de la retrouver, oui.
C'est pas simple de la retrouver, j'ai des bonnes pistes, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ma démarche est vraiment sincère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de volonté de tromper ma femme.
C'est la volonté de mieux comprendre ce qui a pu se passer à cette époque-là. Je comprends ça très très bien, mais en effet, je vois pourquoi vous témoignez. C'est pas je voudrais avoir une aventure et tromper ma femme. Non, c'est vraiment quelque chose de personnel.
Tout à fait. C'est personnel et c'est vraiment pour dire, c'est pas parce qu'on recherche des anciens amis, des anciennes relations que l'on doit tout de suite, qu'il y a risque en fait de renouer quelque chose de plus sexuel au point d'effectivement tromper sa femme ou sa compagne.
Il y a une très belle phrase d'une philosophe, il n'y en a pas beaucoup des philosophes femmes, mais il y en a une énorme qui s'appelle Hannah Arendt, et qui dit une chose très belle dans son journal de pensée, qui dit « l'amour est toujours un coup de foudre ». Ça veut dire, mais ça dit quelque chose de profond sur l'amour. L'amour, ce n'est pas contrôlable. L'amour, ça ne se choisit pas. L'amour, ça ne se gère pas. Aujourd'hui, dans une époque où on gère tout, le temps, le carnet d'adresse, les relations, Facebook et compagnie, l'amour, c'est justement ce moment incontrôlable que l'on ne choisit pas. Et en fait, dans le coup de foudre, ce qui vous a foudroyé, Sylvain, c'est l'enthousiasme de l'autre, c'est l'enthousiasme que l'amour rendait possible, et c'est aussi vous révéler votre liberté. Finalement, quand on aime vraiment dans ce sens-là, on est plus libre que si on était tout seul.
Merci, on va rester sur cette phrase, en tout cas cette philosophie de l'amour. Vincent Cespedes, merci, j'aime donc je suis, c'est aux éditions Larousse. Demain, on sera en compagnie de Françoise Saint-Père et on va elle va nous expliquer comment on peut vivre en aimant plusieurs personnes. C'est son grand credo, hein, Françoise Saint-Père. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir dès maintenant au 32-16 et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Louise Fernandez. Je vous embrasse, à demain.